ensemble dans la présence de notre Dieu. Et qu'est-ce que ça comporte, je dirais, en entrée, en introduction ce matin, qu'est-ce que ça comporte de suivre le Seigneur, de donner notre vie au Seigneur, puis de le suivre. Alors, il y avait l'exemple tantôt, notre frère qui parlait de Moïse, qu'ils envoient pas moi. Moi, je ne suis pas prêt, je suis pas le gars envoyé faire la mission, aller travailler, te servir. Mais Dieu, il a suscité une aide, hein? Puis une personne qui l'a soutenu dans la mission que Dieu avait pour lui. La même chose pour nous ce matin, hein? On sait que lorsqu'on entreprend de suivre le Seigneur, bien, il peut avoir des embûches, il peut avoir des choses qui, personnellement, que nous ne pensons pas être capables, premièrement, et c'est un bon point. Je pense que c'est encore mieux lorsqu'on dit qu'on n'est pas capable que lorsqu'on fonce pour faire la volonté de Dieu en disant « moi, je suis capable, moi, je suis capable, moi, je suis capable ». Et dans le message de ce matin, eh bien, on va regarder ensemble différents points qui vont nous encourager et nous fortifier dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur. Et le titre du message ce matin, « Mets ta confiance dans les bontés ou la bonté du Seigneur ». Et qu'est-ce que cela comporte de mettre notre confiance dans la bonté de Dieu? Bien, ça comporte parfois des questions, des questionnements. Pourquoi moi, Seigneur? Et comme David, qu'on va aller voir dans le psaume 13 ce matin, donc, un exemple que nous allons voir ensemble. Et David écrit au chef des chantres ce psaume. Donc, il y avait quelque chose à dire, à partager suite à sa marche avec son Dieu. Et il voulait que cela puisse être même chanté, célébré par le peuple. Dans ce contexte, bien, David, dans psaume 13, verset 6, donc qui est le dernier verset de ce psaume, dira « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Donc, ce psaume fait partie des chants, des supplications personnelles d'une vie de service avec le Seigneur. Et ça nous parle aussi en cas de malheur. Lorsqu'il arrive le malheur, bien, de se réconforter, d'aller s'encourager par des paroles, des cantiques, des prières à notre Dieu. Donc, dès le début de ce psaume et jusqu'à notre texte qui termine ce psaume, bien, David dit à plusieurs reprises, lorsqu'on lit le début du psaume, « Jusqu'à quand? » Et peut-être que c'est notre cas ce matin. Cela arrive, nous arrive tous de poser cette question au Seigneur à un moment donné dans notre impatience, dans notre marche avec le Seigneur. Il dit « Seigneur, j'aimerais avoir une réponse, s'il te plaît. Hein? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais attendre ta réponse? Jusqu'à quand est-ce que je vais attendre avant que tu interviennes dans ma situation, dans ma vie, dans ce que je suis en train de vivre. » Et David dit, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? » Dans le deuxième verset, « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? » Est-ce que ça se peut que parfois, dans notre marche avec le Seigneur, on a l'impression qu'il se cache pour pas répondre? On se sent même oublié parfois par le Seigneur. Est-ce que ça se peut? Bien oui, ça se peut. Bien que le Seigneur soit toujours là, attentif et prêt à répondre, parfois, il attend avant de nous donner une réponse. Hein? Notre frère nous partageait tantôt une requête de prière que ça fait un an qu'on prie. On prie, et à chaque fois qu'on... À un moment donné, on fait un peu comme Dieu, on oublie. Pendant un certain temps, de prier pour cela, et à un moment donné, ça revient sur notre cœur, on revient au Seigneur. « Seigneur, je t'ai prié combien de fois? Jusqu'à quand je vais attendre avant que tu me répondes? Avant que tu fasses quelque chose pour ma situation, pour ce que je suis en train de te supplier. Hein? » C'est des supplications que David faisait à Dieu. « Jusqu'à quand je vais attendre? » Pour ceci ou pour cela ce matin. Mais je pense que cela peut nous toucher, peut venir nous parler. J'ai vu une vidéo cette semaine où un jeune homme était pris dans un ascenseur. Il n'avait pas l'air vieux. Et l'ascenseur a resté pris. A resté jamais, comme on dit, arrêté entre deux étages. Et qu'est-ce que ce jeune homme a fait? Et il a prié Seigneur. Il dit, « Seigneur, tu sais que j'ai un peu peur. » Hein, c'est son langage. Il dit, « Seigneur, tu sais que j'ai un peu peur. Hein? » Ça, il était pris dans l'ascenseur, ça ne bouge plus, ça n'avance plus, les portes fermées, il se sent pris. Hein, peut-être qu'on se sent comme ça, on se sent pris à un moment donné dans certaines situations avec le Seigneur. Puis on est devant la porte, puis on dit, « Seigneur, je frappe à la porte. » Réponds. Et qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Il dit, « Mais Seigneur, pourrais-tu ouvrir la porte, s'il te plaît? » Tout simplement, « Pourrais-tu ouvrir la porte, s'il te plaît? » Et la porte s'est ouverte. La Seigneur répond, même à des petits-enfants hein, qui vivent parfois des choses, pour eux, semblent infranchissables. Peut-être que c'est notre situation. Ce matin, on est devant les portes d'ascenseur qui est jamais, puis il ne se passe plus rien. On crie, on dirait que... Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de parler d'un ascenseur ou crier, mais il n'y a pas d'écho. C'est vraiment fermé. Et lorsque tu parles, c'est pas comme ici ce matin, lorsqu'on on entend un écho, hein, c'est un son qui est sourd. Tu parles, puis ça, ça arrête tout de suite. Et des fois, ça arrive avec le Seigneur. On parle, puis on dirait qu'il n'y a pas d'écho. On dirait qu'on est devant un mur, les oreilles bouchées, puis il n'y a pas de... On ne ressent rien, on ne ressent pas la présence du Seigneur, ni rien. Et on est là à implorer Dieu, « Seigneur, jusqu'à quand? Quand est-ce que tu vas répondre? Quand est-ce que tu vas faire quelque chose? » Et tu es peut-être en attente de quelque chose du Seigneur, et ton espérance en sa réponse et à son intervention te fait chanceler, vaciller dans ta foi. Jusqu'à aller à penser, ben, comment tu peux t'en sortir? Ou ce que tu devrais faire en attendant la réponse du Seigneur, hein? Le jeune homme dans l'ascenseur n'a même pas pesé sur les pitons. Continuer, en tout cas, à essayer des... Il s'est mis à genoux puis a dit, « Seigneur, hein, ouvre la porte, tout simplement. » Nous, parfois, on s'impatiente devant la réponse du Seigneur. Et le Seigneur nous parle, mais on reste dans notre bulle, puis on ne bouge pas. Jusqu'au moment où ce qu'on... On décide de faire quelque chose, mais on n'a pas écouté ce que le Seigneur nous disait, ce que le Seigneur essaie de nous dire. Et tout comme David, qui, lorsque l'on considère tous ses écrits, avait assez d'humilité et de confiance en son Dieu pour savoir qu'il allait répondre à ses supplications, à ce qu'il demandait au Seigneur. Même après plusieurs années comme croyant, hein, comme enfant et disciple du Seigneur, nous avons tous un moment ou un autre la difficulté à comprendre la vie, les circonstances ou qu'est-ce qui se passe en rapport avec ce que nous sommes en train de vivre présentement. dans un défi quelconque, bien, on a un petit peu cette tangente à chanceler, à vaciller, à dire, Seigneur, qu'est-ce qui arrive encore? Pourtant, on sait que le Seigneur est là. On sait que c'est un fidèle. Mais ça nous arrive encore, même après plusieurs années. Et j'aimerais dire que c'est normal. J'aimerais nous encourager en nous disant que c'est normal de vivre des situations où ce qu'on est éprouvé, où ce que le Seigneur vient nous éprouver. Ce serait faux de croire que le Seigneur va tout te donner ce matin. Les richesses, la puissance et te gaver jusqu'à à satiété et même au-delà. Je pensais à Jésus. Jésus, c'est Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé le jour où il a voulu faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre à laquelle il était appelé pour accomplir toutes les promesses qui devaient être accomplies? Il est parti dans le désert, tout seul, pour chercher la face de Dieu, de son Père. Après 40 jours, 40 nuits, qu'est-ce qui est arrivé? Il a eu faim. Après 40 jours, 40 nuits, il a eu faim. Nous, des fois, on passe des situations pendant une journée, et je te dis que c'est la fin du monde. Ça dure une semaine, là, il n'y a plus de solution, là, on est fini. Hein? Et si ça perdure pendant un mois, là, on est découragé. Là, on serait prêt à demander la mort. Seigneur, accorde-moi la mort. Je veux me retourner avec toi. Je suis prêt à rentrer dans ta présence. Près de l'agonie. Jésus était 40 jours, 40 nuits. Et il a eu faim. Il n'a pas été épargné par l'ennemi. Il s'est approché de lui. Il a justement profité de cette faim que Jésus a eue pour venir le tenter. Et souvent, lorsqu'on est faible, lorsqu'on passe par des défis, des choses difficiles, bien, l'ennemi va en profiter pour venir essayer de tâter le terrain, comme on dit. Pour essayer de voir s'il ne pourra pas avoir une petite place dans notre vie. Heureusement, nous avons le Seigneur avec nous ce matin. Et j'aimerais nous encourager, t'encourager en te disant que le Seigneur est présent dans toutes les épreuves et tes défis, afin d'exercer et d'éprouver ta confiance et ta foi en lui. Afin que tu te tournes vers sa bonté, comme David a fait. Dans 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 13, Pierre nous dit ici, il ne parle pas au monde du dehors, il parle aux bien-aimés, à ceux de l'Église, à ses frères et à ses sœurs. Il dit, « Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Mais réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Hey, c'est-tu possible? Tu pousses un peu, Pierre, matin. Hein? Lorsqu'il vient la fournaise, on sait une fournaise, lorsqu'elle marche, elle ne marche pas à peu près. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on a une fournaise à l'huile, puis ça chauffait là-dedans. Ça chauffait toute la maison. Ceux qui ont connu ça, de notre époque. Mais on sait qu'une fournaise, lorsqu'on allume, c'est parce qu'on veut se réchauffer et qu'elle va marcher. On ne peut même pas toucher. parce que ça vient assez chaud. Même si on baisserait le feu à l'intérieur de la fournaise, on ne peut pas plus toucher à la fournaise en tant que telle. Mais lorsque viennent ces épreuves, il dit, « Trouvez pas ça étrange. » Vous n'avez pas trouvé ça étrange. C'est normal, Jésus a été tenté. Combien plus nous serons tentés? Nous allons être éprouvés. C'est arrivé à notre Seigneur, ça va nous arriver aussi. Mais il va jusqu'à dire, réjouissez-vous. Et on a parlé de l'allégresse la semaine dernière, je crois. Et c'est quoi l'allégresse? C'est pousser des cris de joie. C'est vraiment être une joie spontanée puis qui paraît. Là. C'est pas quelque chose qui se passe en dedans. Là. Un petit frisson, je suis content. C'est pas mal plus que ça. Là. Puis lorsqu'on passe par une épreuve, « Wouhou! Je suis content, Seigneur! Youhou! » Bien, c'est ça l'allégresse. Là. C'est de sauter de joie. « Yes, Seigneur! » Est-ce qu'on est rendu là dans notre marche avec le Seigneur? « Seigneur, éprouve ma foi! » Youhou! J'ai hâte! On est plutôt style à dire « Pas trop souvent, Seigneur, pèse pas trop, parce que je pense que tu me penses plus fort, tu sais, que la foi à laquelle tu m'éprouves. » Mais dirigez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. On ne parle pas des souffrances parce que je me suis écrasé une grosse orteille à quelque part, je me suis coincé à la petite orteille. Mais on parle de souffrances que nous avons par rapport à notre foi. À continuer à marcher avec le Seigneur, à vouloir faire sa volonté, à vouloir accomplir ses desseins dans notre vie. Et ça amène des combats. Et notre plus grand combat, vous savez, frères et sœurs, c'est contre nous-mêmes. C'est contre nous-mêmes qui se passe. Notre premier grand combat, c'est envers nous-mêmes. Parce que nous n'avons pas ce sang-là. On n'a pas cette spontané-là en nous de vouloir être brassé, vouloir être écrasé parfois, de vouloir recevoir des injures, des claques, des fouets, hein, comme Paul, et même d'être lapidé pour le nom du Seigneur, ça se passe dans certains pays. Est-ce que je serais prêt à souffrir pour ma foi ce matin? Pour continuer à marcher avec le Seigneur, qu'importe qu'est-ce qui arrive, que ce soit mon enfant, mon conjoint, ma conjointe, un voisin, un ami ou la famille qui viennent et qui disent, « Ben voyons donc, tu es encore dans la foi, c'est rendu démodé, c'est rendu quelque chose que notre génération n'a plus besoin de ça. » Non, nous voulons nous réjouir dans la foi. Nous voulons faire la volonté du Seigneur, qu'importe le prix qu'il a payé. Qu'importe le prix. Pierre parle des enfants de Dieu et nous dit de ne pas être surpris, ni de trouver cela étrange. Il fait une analogie avec la fournaise, qui est une comparaison avec l'épreuve, la tentation, qui est au milieu de nous. Qui parfois même est au milieu de nous, même dans l'Église. Même dans l'Église. Et lorsque nous faisons l'œuvre du Seigneur, bien, ça peut arriver même dans l'Église, que certaines personnes vont vouloir nous mettre les bâtons dans les roues. Nous empêcher d'avancer, nous empêcher de faire l'œuvre, d'aller prêcher l'Évangile, de prêcher l'Évangile, d'être de bons dispensateurs des grâces de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? de faire la volonté de Dieu et de vivre la grâce, de vivre l'amour de Dieu intensément. Nous apprenons à chaque fois où nous voulons avancer pour le Seigneur qu'il y a des défis qui viennent avec. Vous savez, certains d'entre vous sûrement ce matin avaient fait différents ministères, ou faites différents ministères. Et lorsque on désire avancer pour faire un ministère, mais qu'est-ce qui arrive? Bien, soit que l'épreuve vient dans l'Église ou qu'elle vient du dehors. Et même l'ennemi est là à nous regarder des jumelles, là, pour nous voir d'être proches, pour voir si on va faire quelque chose qui va pouvoir se servir contre nous. Est-ce que ça peut arriver même avec des frères, des sœurs? Malheureusement. Malheureusement. Certains nous regardent avec les jumelles et font l'œuvre de l'ennemi plutôt de faire l'œuvre de Dieu, de vouloir faire avancer l'œuvre de Dieu. Même dans le corps, dans l'Église, parfois, l'amour est dur à trouver, le vrai amour. Celui qui sert à unifier. Celui qui sert à garder la foi et l'unité en Christ. Celle qui fait grandir l'œuvre de Christ. Celle qui édifie tout le corps. Nous devrions être extrêmement heureux, hein, de savoir que c'est pour la gloire du Seigneur que nous souffrons et combattons. Et je l'ai expérimenté, et sûrement vous aussi, que vouloir servir à glorifier le Seigneur, à faire l'œuvre de Dieu, il y a des souffrances qui suivent. Ne soyons pas de ceux qui alimentent la souffrance des autres, par exemple. Ne soyons pas de ceux qui amènent des combats aux autres. Mais plutôt, la présence de Dieu. Reflétez la présence de Dieu. Reflétez ce que le Seigneur est. Dans toutes ses bontés et sa bonté. Et c'est vers cela que David s'est tourné. Ésaïe 38, verset 16, nous dit, « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis et tu me rends la vie. » Amen. C'est par les bontés de Dieu. Et c'est à cause de ses bontés que nous avons la vie, que nous sommes vivants dans le Seigneur ce matin. Quand je suis en attente de la manifestation des bontés de Dieu envers moi, je peux être heureux dans mon cœur, confiant et en paix, car ses bontés sont liées à quoi? À quoi sont liées les bontés du Seigneur? À sa loyauté, sa fidélité qui s'exerce à travers ses promesses. Celle qu'il nous a données par sa parole et qui sont accessibles à tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus. Sa bonté est aussi associée à sa miséricorde et sa grâce. Donc, nous avons tout pleinement en lui ce matin. Voici ce que la parole de Dieu nous dit, ou nous enseigne par la parole d'un jeune prophète de Dieu, qui s'appelle Jérémie, qui marcha avec le Seigneur durant une quarantaine d'années. Dans Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 21-25, un passage que nous disons souvent. Peut-être vous avez inscrit sur votre frigidaire ou à quelque part un petit cadre ou quelque chose comme ça, ou surligné dans votre Bible. Il disait ceci, « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui est notre, ce qui me donnera de l'espérance. » Qu'est-ce qui va me donner de l'espérance? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. elle se renouvelle. Toutes ses promesses, toutes ses compassions, toutes ses bontés se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le recherche, qui le cherche. Est-ce que c'est ça que je cherche ce matin? C'est ça que je désire? Je veux m'approprier les bontés de Dieu. Je veux m'approprier sa fidélité parce qu'elle est grande. Ne pas rester dans la première partie de notre texte de ce matin, jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand? Mais à un moment donné, il faut s'asseoir puis dire, là, ça fait. Seigneur, tu les renouvelles, ces bontés, à chaque matin, puis je les veux. Je les veux, je les désire. Pour nous, ce matin, nous pouvons avoir une grande et profonde espérance en notre Seigneur Jésus, car ce n'est pas seulement par ses paroles écrites dans la Bible qui est la bonne nouvelle que nous sommes encouragés, mais bien aussi par la présence de son Esprit et notre communion avec lui. Avec notre communion avec lui. C'est encourageant ce matin, la parole de Dieu. C'est encourageant ce matin de pouvoir lire les promesses de Dieu, de pouvoir se les faire rentrer dans le cœur. Mais il y a quelque chose d'encore plus merveilleux. C'est sa présence. C'est sa présence que nous avons avec nous par l'Esprit. Parce que même si je n'ai pas sa parole écrite dans mes mains, bien j'ai son Esprit vivant en moi. Quand mes mains on m'arracherait la Bible ce matin, j'ai la présence de Dieu en moi. J'ai la présence de mon Seigneur, mon Sauveur, celui qui a toutes ses bontés, toutes ses richesses, et qui veut les exercer envers moi et envers toi ce matin. Car nous vivons une vraie communion relationnelle de vivant à vivant avec le Seigneur. Ça nous encourage, ça devrait nous encourager ce matin. Notre espérance et notre communion n'est pas avec des esprits, des morts, mais avec quelqu'un qui est vivant, et c'est Jésus, qui est ressuscité et qui vit à toujours, éternellement. C'est pour ça qu'on peut placer notre confiance en lui, qu'on peut espérer en lui, parce qu'il est vivant, il est réel. Des personnes parfois qui disent, on dirait que quand tu parles au Seigneur, c'est comme s'il était là. Ben, il est là. C'est pas compliqué. Il est là. Je peux lui parler, non pas en récitant quelque chose, je peux lui parler avec mon cœur. Il est là. Il est vivant. Il est réel. Il n'est pas limité à l'église le dimanche matin. C'est sa meilleure place qu'on devrait être. Mais il est avec nous tous les jours. Et à chaque jour, ses bontés se renouvellent. Tout ce qu'il a comme trésor et tout ce que tu peux rechercher ce matin, ce que tu cherches pour ton âme, ton cœur, le Seigneur l'a. Il est prêt à te le donner, à te l'offrir par sa grâce. Dans 1 Jean chapitre 1, verset 3, il nous a dit, c'est ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous voyez avec vos yeux, vous soyez en communion avec nous, parce que notre communion à nous, elle est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Notre communion à nous, frères et sœurs, elle est avec le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Plusieurs traductions de notre texte ce matin disent ceci, « Moi, du psaume 13, dit « Moi, j'ai confiance, je suis sûr de ton amour et je compte sur ta bonté. La joie remplit mon cœur d'allégresse, car tu me sauves et me secours par ton salut. » Et le mot « salut » ici dans l'hébreu nous parle de « Yeshua ». Le mot « salut » est égal à « Yeshua », à sa définition. Ou « shalom » en français qui signifie « délivrance, bien-être, prospérité, paix et victoire obtenue par le Seigneur ». On ne parle pas de prospérité, là, à remplir nos poches. On parle d'une prospérité spirituelle, une prospérité de bien-être intérieur avec le Seigneur. C'est ça qui vient combler, premièrement. Et s'il te comble de bien extérieur, bien, gloire à Dieu. Mais ce qu'il vient faire, la première chose qu'il vient faire, c'est de te reconstruire à l'intérieur. De venir te donner une vie nouvelle à l'intérieur. Parce qu'on sait que l'extérieur se flétrit et un petit peu moins beau de jour en jour. Il faut le travailler de temps en temps. Mais il vient pour l'intérieur. Parce que c'est ça qui s'en vient. C'est ça qui s'en va vers lui. Il veut notre bien-être. Il veut notre délivrance. Il veut qu'on soit délivré. Ensuite, il dit, « Je veux chanter en ton honneur pour le bien qu'il m'a fait. Ô Éternel, tu m'as fait du bien et tu m'as comblé de tes bienfaits. » Comblé de tes bienfaits. Moi, j'aime ça quand je vois ce mot-là, « comblé », là, parce que c'est pas juste à rebord. Hein. Ça comble. Ça comble, là. Tu peux pas en mettre une goutte de plus. Tu es vraiment à rebord. Tu es comblé au bout. C'est du 200%. Tu ne peux pas demander mieux que le Seigneur. En rapport avec le salut, la délivrance de Dieu dans l'Ancien Testament, Moïse et le peuple de Dieu en ont tous été témoins. Dans Exode chapitre 14, verset 13, Moïse répondit au peuple, de la part de Dieu, il dit, « Ne craignez rien. » Restez en place. Lorsque Pharaon s'est emmené avec sa gang, puis il était devant les eaux, il était pris. Il n'y avait plus rien en avant de lui. Il était devant une porte, comme notre jeune homme du début. Il était pris. Qu'est-ce que Moïse a dit? Ne craignez rien et restez en place. Et regardez la délivrance que le Seigneur va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Wow! Quelle belle promesse! Ça, c'est une belle promesse. Même si cela est difficile à, parfois de rester tranquille, lorsqu'on est face à un mur, lorsqu'on est face au défi, même si c'est difficile, le Seigneur parfois nous demande et nous dit de rester tranquille et ne pas craindre. Quand nous sommes mis au pied du mur et qu'il n'y a rien que nous puissions faire ou dire face à nos adversaires, notre montagne, je pense à Zorobabel, il dit, « Qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. » C'est un passage que j'ai toujours eu dans mes pensées qui me reviennent chaque fois que c'est quelque chose d'impossible. Il dit, « Qui es-tu, montagne, devant le Seigneur? Tu vas être aplani. Tu ne subsisteras pas devant le Seigneur. Il va t'aplanir. » Il dit, « La meilleure chose que nous puissions faire est de tout remettre au Seigneur. » Car lorsque le Seigneur délivre, il y a une grande joie qui fortifie ton âme et ton cœur. Et c'est là qu'on sait qu'on est dans la volonté de Dieu. Malgré le défi qu'on vient de passer, malgré l'épreuve qu'on vient de passer, qui parfois on dit, Seigneur, ouf, même si on a la parole de Dieu, hein, ça arrive de dire, ouf, Seigneur, même si je sais que peut me faire un homme, oh misère, t'es plus grand que tous les hommes, t'es plus grand que toutes les situations, que toutes les montagnes qui arrivent. Nous apprenons plus tard, hein, que Moïse a composé un cantique à l'honneur de l'Éternel. Et lorsqu'on a une délivrance, lorsque le Seigneur intervient et manifeste sa puissance, et on a cet esprit de louange qui monte en nous, cette paix intérieure profonde que le Seigneur vient placer dans toute notre être, qui nous pousse à le louer, à l'honorer, à le glorifier. Et Moïse a écrit un cantique, et à plusieurs endroits, on en parle, mais on a des paroles dans Deutéronome, pour ceux qui prennent des notes, 31-30 et 32-44, mais on a ces paroles, hein, qu'il a composées au travers de ce cantique, dans Apocalypse, dans le livre de Révélation, l'Apocalypse, chapitre 15, verset 3, ou peut-être, hein, il y a des chances qu'on soit de ceux qui vont chanter ce cantique. Il dit, et il chante le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Voici ce qui a monté en lui. Après cette délivrance, après que le Seigneur l'ait délivré, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Quand le salut et la délivrance que le Seigneur nous accorde nous donne la victoire, cela devrait nous pousser davantage à l'adorer et le louer par des cantiques, hein, spirituels, en lui rendant des actions de grâce. Car lorsque c'est le Seigneur qui nous vient en aide, il y a une paix et une joie profonde qui vient s'installer. Dans le psaume 68 et verset 20, il nous a dit, si Dieu est pour nous, le Dieu, hein? Dieu est pour nous, pas parmi les dieux, mais le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir ou nous faire échapper même de la mort. Amen. Parce que nous avons la vie. Nous avons la vie en lui. Nous n'avons même plus à... Comment je pourrais dire ça? On n'a même plus à avoir peur de la mort. Parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. On sait qu'on a une place assurée. On sait qu'on a été délivré de la mort même. Afin de vivre une vie pleine et entière aujourd'hui même. Avec le Seigneur dans la présence de Dieu. Le Seigneur sait comment nous faire du bien. Quand j'écrivais sur ce sujet, il m'est venu ces paroles d'Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 30 et verset 15, où il a dit, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. » Voici ce qui m'est venu lorsque je pensais à ce message, et je préparais le message de ces paroles qui nous dit, « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre délivrance. » Je le dis encore. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre délivrance. C'est dans le calme et la confiance. Ça prend les deux. La tranquillité, ça prend le repos. Et dans le calme, la confiance dans le Seigneur que sera votre force. C'est dans notre confiance en lui, frères et sœurs, que nous retrouvons la sérénité et cette promesse de paix que nous avons. Il ne nous a pas parlé que nous aurons lorsqu'on va être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Mais on parle ici au présent, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, c'est dans la tranquillité, au moment même où ce que tu le mets en application dans ta vie. Ce n'est pas dans l'agitation, le désordre ou l'inquiétude, l'activisme même, mais bien dans le repos. Dans le repos. Lorsqu'on se repose dans le Seigneur, dans la main de Dieu, lorsqu'on s'en remet à lui, est-ce que je suis prêt à faire l'exercice ce matin? De rester calme et d'être confiant que le Seigneur va agir et va manifester sa bonté, sa grâce envers moi dans la situation dans laquelle je me trouve. Avoir confiance et expérimenter les bontés de Dieu, c'est facile qu'à ce qu'on voit le Seigneur agir là. Hein? Mais lorsqu'on est comme David et qu'on vit une situation comme David, où on est rendu à dire, « Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand? » Et que le Seigneur te dit, « Jusqu'à ce que tu aies compris qu'il faut que tu restes tranquille et que tu te reposes en moi, que tu me remettes ta situation, que tu restes calme et que tu aies confiance en moi. » C'est ce que le Seigneur désire pour chacun de nous. Avoir confiance, expérimenter les bontés de Dieu. C'est bénissant lorsque, et ça vient tout changer la donne, ça vient même changer notre être, notre façon d'être, lorsque le Seigneur répond. Mais pour que le Seigneur réponde, il faut qu'on prenne conscience que on doit se parler des fois. Oui, on y parle, mais on doit se parler aussi. Parce que David dit « moi ». Moi, il s'est parlé ici. Là, il ne parlait plus à Dieu. Il dit « moi ». Il s'est parlé, il dit « moi, j'ai confiance dans ta bonté. Je vois comment est-ce qu'elle est la situation, mais moi, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en ce que tu peux faire dans ma situation. Et même que j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut, à cause de tout ce que toi tu m'offres, Seigneur, je peux rester calme ce matin. Je peux même être dans la joie. Parce que je sais que tu vas agir. J'ai cette confiance, cette assurance et cette paix que je sais que tu es là. Je pourrais te dire ce matin que le Seigneur t'aime. J'espère que tu le sais déjà. Et il t'aime assez pour prendre soin de toi, mieux que quiconque. Parfois, on se dit, je vais aller vers tous les spécialistes qu'il y a au monde. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur te demande. C'est pas ça que le Seigneur te demande, des fois. Il dit, oui, ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire, allez pas vers les spécialistes ce matin, d'aller vers les médecins. C'est Dieu qui nous a donné la sagesse, la connaissance d'être capable de guérir certaines choses. Mais mon premier réflexe, est de me reposer dans le Seigneur et d'aller vers lui, puis de lui donner ma situation. De me parler parfois même jusqu'à me dire, aie confiance dans le Seigneur, dans sa bonté. Fais confiance au Seigneur. Même si tu ne le vois pas agir, puis tu te poses des questions, quand est-ce? Parfois, le Seigneur veut qu'on reconnaisse. Qu'on reconnaisse que c'est lui qui a tout pouvoir. Et que c'est sa main qui peut nous délivrer. D'une manière miraculeuse. Et venir nous fortifier dans notre foi. Et amener cette paix que nous recherchons. Le psaume 139, verset 5, nous dit ceci. Lorsqu'on considère ces paroles ce matin, psaume 139, verset 5, nous dit, « Tu m'entoures par derrière et devant. » Le Seigneur, on est dans sa présence. Seigneur, je sais que je suis dans ta présence. Je sais que tu es présent avec moi. Tu m'entoures. Et par derrière, par devant, moi, je vois comme deux bras qui nous serrent. Les mains du Seigneur qui sont là. Et tu mets ta main sur moi. Wow! Nous sommes privilégiés, frères et sœurs. Le Seigneur nous entoure et il met sa main sur nous. Et la main de Dieu n'est pas une main de jugement, de malédiction, mais une main d'amour. Une main qui apporte la paix, qui apporte la bénédiction, qui apporte des bontés, des promesses de rétablissement et de salut, de délivrance. Le psaume 13 nous rappelle que ce bien-être intérieur que tout le monde recherche est ce qui nourrit notre adoration et qui fait de nous ce que nous sommes ce matin. Les adorateurs du Seigneur, de notre Dieu Tout-Puissant, pour qui je veux chanter et célébrer par mes louanges. Et c'est souvent aussi de cette manière que le Seigneur se sert. Je parle des louanges, c'est pour venir nous relever. Lorsqu'on n'a plus de mots, lorsqu'il n'y a plus rien qui sort, écoutez des chants, des cantiques qui louent le Seigneur, qui élèvent le Seigneur. Et oups, d'un coup, on se sent léger, on sent la présence de Dieu. Et malgré la situation dans laquelle je ne suis plus la même personne dans cette situation. Parce que mes yeux ne sont plus sur ce que je vois, mais sur la présence de Dieu. Romains chapitre 15. Verset 10 à 12, nous dit, « Si nation, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. » Isaïe dit aussi, il fait référence à Isaïe, il dit, « Sortira d'Isaïe un rejeton, en parlant de Jésus, qui se lèvera pour régner sur les nations, et les nations espéreront en lui. » Espère, espérer. Espérer, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'avoir la foi, une foi ferme et solide dans le Seigneur, qui espère en lui, parce que c'est lui qui règne. C'est lui qui peut changer toute la situation. Dans les temps, je t'ai dit antiques, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle des rois, bien, il y a seulement le sceau du roi qui pouvait changer une situation, qui pouvait changer quelque chose. Mais lorsque le sceau était mis, il n'y a plus rien qu'on pouvait faire. Ça venait trancher. Et Jésus est celui qui règne sur toutes les nations ce matin. Il est notre roi. Pour plaider notre cause, on va vers qui? Vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il plaide en notre faveur. Nous, nous espérons. Donc, notre cœur ce matin peut être heureux car nous pouvons mettre notre confiance dans les bontés du Seigneur. Lui sait comment répondre à tous mes besoins ce matin, demain et même toute ma vie. Je peux trouver le repos même dans l'adversité, les défis, car ses bontés envers moi sont immuables, puisqu'il fait preuve de fidélité, d'honnêteté, de droiture et d'intégrité. Il est loyal. Le Seigneur est loyal envers toutes ses promesses. Donc, lorsque je me tourne vers l'espérance dans le Seigneur, je sais qu'il est fidèle, droit et intègre pour accomplir toutes ses promesses dans ma vie. Donc, à nous le repos ce matin. À nous de chercher ce repos, de chercher notre confiance et d'être dans l'allégresse, dans la joie. Soyons dans la joie ce matin de recevoir du Seigneur toutes ses bontés. Amen. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans nos cœurs.